Good Morning Business, le grand débat.
Le grand débat entre Marc Fiorentino et Emmanuel Lechypre. On a plusieurs sujets ensemble.
On n'est pas d'accord.
Et vous n'êtes évidemment pas d'accord, mais je vous donne les sujets avant d'être pas d'accord. Les législatives, les élections américaines et bien sûr toutes les questions économiques du jour. On y va, c'est parti. On commence avec la Startup Nation parce que j'ai posé cette question ce matin depuis 6 heures. Est-ce que la Startup Nation est morte ? Pourquoi je pose cette question ? Parce qu'on reçoit un certain nombre de TPE, de PME, de TI qui nous disent qu'ils ressentent une décorrélation, que ces Startup Nation même les énerve, qu'ils se sentent...
Voilà.
Ils détestent ces Parisiens en pull et en Stan Smith. Voilà, c'est ça exactement. Donc c'est pour
c'est devenu
un symbole de ce qu'on doit détester.
Exactement. C'est-à-dire Macron égale Startup Nation comme détestation de Macron, détestation de la Startup Nation. C'est-à-dire que je pense qu'on est allé trop loin, même nous. Je veux dire, il faut se remettre en question. Hein. C'est-à-dire qu'à force d'avoir mis en avant toujours ces licornes dont on s'aperçoit que ce ne sont pas des licornes, que ce sont des baudruches, de ne pas avoir mis avant les entreprises sur le terrain, les PME, les TPE, les artisans, les industriels. Moi, je vois bien, par exemple, la frustration des sociétés cotées en bourse. Ouais. Sociétés cotées en bourse, ces sociétés qui valent plus de 1 milliard d'euros. Elles valent plus de 1 milliard d'euros. C'est-à-dire que si on veut vendre 10% de la boîte en bourse, on peut la vendre, elles vendent ça. Mais quand on ne les met pas en avant et qu'on met en avant une boîte qui fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, 100 millions de pertes et qui vaut 1 milliard, bah elles deviennent folles. Donc je veux dire, moi je pense que la Startup Nation...
Et évidemment, on en a fait trop.
On en a fait trop et je pense que même nous, il faut qu'on se remette en question. C'est-à-dire que globalement, l'époque où on était là en train de dire « Ah, c'est formidable, cette boîte a levé 200 millions » et puis on ne regardait pas la rentabilité, les projections, rien du tout. Et qu'il y avait en face de nous des gens qui bossent le matin, qui commencent à avoir leurs résultats, qui ont des problèmes de crédit bancaire, qui n'arrivent pas à lever de l'argent. C'est énervant, c'est faible. C'est-à-dire que je pense que ça a ajouté à ce climat de déconnexion. Mmh. C'est-à-dire une sorte de monde irréel. Qui serait le monde de la French Tech, le monde d'après, le monde où les gens sont beaucoup plus intelligents, où ils arrivent à gagner. Et puis la France industrielle.
Sauf qu'on a quand même besoin d'innovation et qu'il va falloir quand même qu'on finance un certain nombre.
Mais il y a façon et façon de le faire. C'est-à-dire que si vous, la Startup Nation, la French Tech, tous ces trucs-là, c'est très bien. Je dis pas qu'il faut pas. Évidemment qu'il faut de l'innovation. Vous avez raison. Mais on en a tellement fait qu'on a créé une crispation et qu'on a créé un fossé entre une partie émergée de l'iceberg qui est toute petite quand même, toute petite, à côté d'une masse énorme d'industriels, d'entreprises, de TPE, de boîtes de services qui, elles, font tourner l'économie aujourd'hui et qui se sont sentis totalement délaissés. Et on avait l'impression que c'était une sorte d'entre-soi parisien par rapport au reste des territoires.
Emmanuel Lechypre.
D'abord, je pense que ça a correspondu à un état d'esprit, à un moment. C'est-à-dire que vous avez eu cette révolution technologique, vous avez eu un président qui est arrivé, qui était plutôt jeune, qui était un peu une incarnation, finalement, de cette espèce d'esprit d'entreprise. Je pense qu'il y avait aussi une dimension... Alors, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit Marc. Mais après, je pense qu'il fallait aussi... marquer les esprits, c'est-à-dire qu'il y avait cette idée que, enfin, grosso modo, l'image de la France industrielle dans le monde, elle était quand même pas terrible. Et donc, je pense que là, on a vu finalement une possibilité de ripolliner l'image de la France, nation industrielle, nation productive.
Sauf qu'on a un peu créé un monstre marketing qui nous explose en pleine tête.
Oui, parce qu'après, là où je suis d'accord avec Marc, c'est qu'on en a
comme
fait
les licornes, c'est-à-dire
que quand on en est arrivé à s'extasier sur le fait que les startups françaises étaient les plus nombreuses au CES de Las Vegas, qu'on versait des larmes d'émotion sur des brosses à dents connectées ou sur des chausse-pieds vibrants, chauffants, tout ce que vous voulez, etc. Enfin, je pense qu'on a été trop loin dans ce côté gadget de la Startup Nation. Je pense que ça a été bon globalement pour l'image de la France et il faut reconnaître que l'image de la France a quand même changé dans le monde et ça... puisque, enfin, on en reparlera après, mais pour le coup, un des gros sujets aujourd'hui, ce qui risque de nous arriver, c'est qu'en fait, les investisseurs internationaux, le monde, pensait que les Français avaient changé. Avec Macron, avec la Startup Nation, etc. Et en fait, ils se rendent compte que pas du tout aujourd'hui. Et ça, à mon avis, ça laissera des séquelles durables. Je referme la parenthèse. Après, là où effectivement, on s'est laissé, finalement, mais quand je dis on, c'est aussi au niveau des dirigeants, de nos ministres, etc.
Et des médias.
Et des cercles du pouvoir et des médias. C'est qu'en fait, on s'est laissé griser parce que on a perdu de vue que l'essentiel, c'est que ce qui remettrait l'économie française d'aplomb, c'est-à-dire ce qui règle tous nos problèmes, parce qu'on dit souvent, il n'y a pas 36... Si, il y a une politique qui réglerait tous nos problèmes.
Pourquoi ?
eh ben, c'est de réussir à faire monter en puissance ces PME qui triment effectivement tous les jours.
On va refaire le défi ETI, oui, mais plus grand, plus fort.
Évidemment.
Mais okay. la réalité, c'est que si on n'avait pas deux fois moins de ces entreprises de taille intermédiaire que les Italiens et trois fois moins que les Allemands, nos problèmes de chômage, de cotisation sociale, de déficit public seraient résolus.
Et je vais plus loin.
L'écart de taux d'emploi avec l'Allemagne, pour terminer, il est lié à ça, il est lié à ces centaines de milliers d'emplois qu'on n'a pas dans les ETI.
Et je vais plus loin parce qu'il y a eu un détournement de fonds. C'est-à-dire que l'argent a été levé principalement de façon totalement absurde dans des boîtes dont on savait qu'elles n'étaient pas viables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, reprenons la liste de toutes les boîtes.
C'est un peu fort, détournement de fonds, non ? C'est pas du gâchis, juste plutôt ?
Ben non, parce que cet argent-là. Quand je dis détournement de fonds, c'est pas fort. Parce qu'il y a des boîtes qui ont besoin de lever. Qui sont boring, c'est-à-dire qui sont pas excitantes. OK, c'est des boîtes industrielles, c'est des boîtes qui malheureusement ne font que 10% de croissance et qui sont rentables. Alors quand on était rentable, c'était horrible. Et puis de l'autre côté qui ont eu des problèmes pour lever de l'argent. C'était compliqué de lever de l'argent. Et à côté de ça, il y a eu un afflux de capitaux pour des boîtes. Combien reste-t-il aujourd'hui de boîtes qui valent plus d'un milliard d'euros réellement ? Et dont on a célébré ici le fait qu'elles étaient...
Moi, je veux bien dire que c'est un problème de médias et que tout ça est de la faute de BFM Business, il me semble que c'est un problème de banquiers et de fonds.
Non, je pense que...
Vous me dites, c'est l'argent qui a été...
Non, je pense que c'est un problème général. Je suis pas en train de dire que c'est un problème BFM Business. Je suis en train de dire que c'est un problème général. C'est-à-dire qu'on a eu, effectivement, ce que dit Emmanuel, on a eu ce côté un peu jeunisme. C'est-à-dire que si on était une boîte qui avait plus de 20 ans, avec un dirigeant qui avait plus de 40 ans et qui perdaient pas de l'argent, globalement, vous étiez totalement ringardisés. Comme a été ringardisée la classe politique d'avant, quand Emmanuel Macron est arrivé. Et donc, il y a une assimilation. C'est-à-dire que c'est assez incroyable, c'est assez fascinant. C'est-à-dire qu'il y a un parallèle entre un secteur de l'économie qu'il faut célébrer, parce que vous avez raison, l'innovation, c'est essentiel. D'accord, il faut célébrer, mais on est devenu obsessionnel. Mais,
sauf que Marc, quand on regarde finalement la démographie des entreprises en France, est-ce qu'on avait un problème fondamentalement sur la création de petites entreprises ?
Mais énorme. Non, mais je veux te dire une chose, on n'avait pas un problème de création, on avait un problème de financement. Et on a toujours un problème de financement. Les 10 dernières années qui viennent de se passer, malgré des taux d'intérêt au plus bas, je peux te dire que le financement d'entreprises traditionnelles
n'est
pas de création.
C'est ce que je te dis.
C'est pas la start-up, c'est la scale-up.
En fait, on a été misé à fond sur les startups, alors qu'on n'avait pas fondamentalement dans l'écosystème économique français de problème. Quand on regarde les chiffres par rapport à nos voisins européens, on n'avait pas fondamentalement de problème de création initiale.
C'était un problème d'image, alors.
Je pense que même c'est un problème de terminologie. C'est-à-dire que le terme startup, création d'entreprise, entrepreneuriat, ça c'est très bien. C'est-à-dire que le fait d'inciter à l'entrepreneuriat.
Qu'on a voulu faire américain, en fait. C'est ça le problème.
Voilà, on a voulu. L'entrepreneuriat, c'est formidable. Être chef d'entreprise, c'est formidable. Mais ces termes-là, on ne les utilisait même plus. C'est-à-dire que c'était start-upper, start-upeuse, et c'était à qui lever le plus d'argent avec le plus de pertes. C'est quand même un truc aberrant qui a rendu complètement dingue. Alors, l'autre France, c'est-à-dire celle qui a réellement une valeur au quotidien et qui génère, qui crée des emplois et qui n'avait plus de fonds.
Alors parlons de cette autre France, passons à cet autre thème. Sur les législatives, vous avez fait tourner les modèles économétriques, Emmanuel Lechypre, sur l'ensemble de l'économie française, sur la dette, la croissance, le PIB. Qu'est-ce que ça donne quand on applique les programmes ?
Alors, ça donne des chiffres très intéressants, mais qu'il faut savoir interpréter. Grosso modo, vous avez le programme du nouveau Front populaire, qui, est assez bien documenté, puisqu'on a eu tous les chiffres, tous les ordres de grandeur. Et puis, deux, ce sont des politiques qui sont quand même extrêmement traditionnelles. C'est du réchauffé de politique keynésienne, de relance par la hausse des salaires, la hausse de la demande publique. Et on sait très bien ce que ça produit. Donc, le modèle est très à l'aise avec ça. Et c'est vrai qu'en plus, le programme du nouveau Front populaire, on met beaucoup d'argent sur la table. C'est un programme d'ampleur. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez quand même 25 puis 100, puis 150 milliards de prélèvements supplémentaires, hein, si on se met à l'horizon 2027, face à 30, pareil,
5. Là, vous savez où on va.
Et, ça, et voilà. Et donc, on sait très bien, c'est, là, on est sur des mesures qui représentent des points entiers de PIB. Si vous regardez le programme du Rassemblement National, que vous cumulez. Alors, attention, précision importante, on n'a pas pris en compte les retraites parce que ça dépassait nos horizons. Vous regardez le programme du RN, vous voyez, bah tiens, baisse la CVAE par-ci, un petit peu d'impôts en moins pour les ménages. Et donc, vous avez un programme qui est timidement libéral, je dirais. Il y a de la dépense publique qui baisse. Ils vont chercher 8 milliards sur les dépenses des agences de l'État, etc., etc. Et donc, on a un petit programme libéral, mais qui est plutôt sur des dixièmes de points de PIB d'ampleur. Et c'est vrai que, moi, il y a un chiffre qui m'a frappé, c'est en gros, quand vous avez le Rassemblement National qui vous allège de 1 euro l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés des entreprises, le Front Populaire vous les augmente de 5 à 7 euros.
Sauf, donc, et après on donne la parole à Marc, ouais. Du côté du Rassemblement National, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas mesurer.
Voilà. Oui, donc si vous voulez, en gros, bah, le modèle il dit quoi, sans surprise, que si vous faites une relance keynésienne, au final il y aura moins de croissance parce qu'on sera moins compétitif, qu'on creuse les déficits commerciaux considérablement, on prend 3 points de déficit public et 2 points de taux de chômage, puisque quand vous augmentez le coût du travail, évidemment, ça fabrique du chômage. Le programme du RN, il est beaucoup plus light sur l'effet de notre modèle, sauf que...
Beaucoup d'incertitudes.
Et sauf que le vrai saut dans l'inconnu, c'est ce programme-là. Je veux dire, l'avantage, si tu veux, du programme de gauche, c'est que tout est dans les comptes. Le programme du RN, c'est que tout est hors bilan. Et donc, on a cette expression qu'on a développée qui est, effectivement, qui est
assez... Chèque en bois. Allez, ou chèque en
bois d'un
blanc.
Côté, chèque en blanc de l'autre.
Alors, l'expression est très sympa, c'est une très belle punchline, mais j'ai un peu de peine parce que Emmanuel a travaillé pour rien. Parce qu'en fait, c'est des programmes qui, évidemment, ne seront absolument pas appliqués. Donc, les chiffrés, c'est toujours très intéressant. Sauf qu'on n'a aucune marge de manœuvre. C'est-à-dire qu'il faut quand même rappeler aux gens qui nous écoutent.
Il n'y a pas de chèque possible, peu importe.
Donc, de toute façon, c'est chèque en bois, donc il n'y aura pas de chèque. Et donc, quand on dit le programme du Rassemblement National est flou, en fait, il n'est pas flou du tout. C'est juste un programme économique qui a les moyens de ses ambitions et il n'y a pas de moyens pour les ambitions. Donc, la réalité, c'est qu'en fait, on va avoir que des programmes qui seront des programmes dans lesquels il va y avoir des mesurettes. Et c'est intéressant de chiffrer le travail que tu as fait est intéressant, même s'il est totalement inutile. Mais on n'aura que des mesurettes qui sont des mesurettes parce qu'on a, on a deux forces de rappel. Alors, je sais qu'Emmanuel n'en aime pas une, mais elle existe quand même. Il va me rappeler 2012, mais c'est pas grave. Il y a une force de rappel qui est quand même le cadre européen. Rappelons-le. Oui. On n'est pas en 1981, juste. C'est-à-dire, le programme du Front des Gauches, c'est 1981. On n'est pas en 1981. Il y a l'euro, il y a la Commission européenne, l'autre force de rappel, et même si Emmanuel dit, oui, vous criez au loup à chaque fois sur les marchés, il se passe rien. Bon, là, on voit quand même ce matin, on vient de passer la barre des 80 points. Alors, c'est pas la panique, je suis d'accord avec Emmanuel.
L'écart de taux
entre l'Allemagne et, on a passé les 80 points, l'écart de taux entre le 10 ans allemand et le 10 ans français, qui est l'indicateur, le fameux spread. On considère, nous, dans les marchés, mais peut-être qu'on a tort, que c'est la cote d'alerte.
Ouais.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on passe les 80 points, on n'est pas dans la panique, mais on est quand même dans un signal qui nous dit attention, danger. Et donc, et on l'a vu, hein, le Rassemblement National, en fait, pourquoi c'est devenu un non-programme ? Parce qu'ils se sont mis à l'écoute, ils ont interrogé énormément d'experts dans le monde économique, qui leur ont dit de toute façon, vous ne pourrez rien faire. Mmh. Donc, ce n'est pas la peine d'annoncer des trucs que vous ne pourrez pas financer.
Ah, y a quand même...
Deux secondes, parce qu'il faut qu'on parle des États-Unis.
Non,
après.
Non, mais juste pour dire, l'ambiance aujourd'hui, c'est une ambiance de veillée d'armes un peu. Hein, et on voit bien qu'il y a quand même une posture d'attente. C'est ce qui se reflète dans ces 80 points de base. Et effectivement, il y a des signaux. Par exemple, quand cette semaine, le Trésor français émet sa dette, je vous rappelle que traditionnellement, la demande de titres français équivaut à 3, 4, 5 fois finalement ce que les Français mettent, ce que le France Trésor met sur le marché. Là, on n'était qu'à 2 fois cette semaine. Donc là encore, c'est un petit signal d'alerte. Donc c'est pas encore la panique, mais la France est sous très haute surveillance.
Pression.
Et effectivement, Marc a raison. Pour la beauté du geste économique, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir les cadrages.
mais
c'est vrai aussi que...
On ne travaille jamais pour rien, Emmanuel.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, après le deuxième tour...
Si les économistes travaillent toujours pour rien.
Il ne faut pas penser que la situation sera clarifiée et que l'attentisme va perdurer et que tout ça va coûter très cher à l'économie française.
Il nous reste 4 minutes pour parler du débat Trump-Biden, premier face-à-face cette nuit. Un petit extrait en débrief derrière.
And he caused the inflation.
L'inflation, c'est de sa faute. Quand j'ai quitté le pouvoir, en fait, la situation n'était pas du tout la même. Tout se passait bien, il n'y avait pas d'inflation. Et en fait, avec toutes ces dépenses, l'inflation a explosé.
Il n'y avait pas d'inflation quand je suis devenu président. Vous savez pourquoi ? Parce que l'économie était à l'envers. 50% de chômage, il a complètement décimé notre économie. Voilà pourquoi il n'y avait pas d'inflation à l'époque.
Marc Ferrandino, il faut être très clair, c'était pas facile à regarder.
Non, c'était gênant, parce que quel que soit le camp politique dans lequel on est, bon, on a d'un côté quelqu'un qui continue à s'aîner des contre-vérités, mais on a l'habitude, il est dans son rôle, et puis quelqu'un qui est vraiment gênant, c'est-à-dire qu'on en est à se dire à quel moment, quel est le timing pour lui dire de s'en aller, ce qu'il souhaite, à mon avis, je pense qu'il est vraiment là par nécessité, par besoin, pour essayer de faire que ce parti soit uni, puisqu'il y a, c'est encore pire que nos fronts de gauche ou ce qu'on peut imaginer en France, et il y a tellement de courants dans le parti que si on cherchait un nouveau candidat, ça serait la débâcle.
Et pourtant, donc, ils en sont là quand même.
Là, vraiment, franchement, là, j'ai lu tous les commentaires de la presse américaine ce matin, et le Wall Street Journal, je leur accorde énormément de confiance parce qu'ils sont très proches des cercles à la fois démocrates et républicains, et là, ils expliquaient, mais vraiment, que c'était la panique totale, qu'il y avait des réunions d'urgence, qu'ils étaient en train de se dire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas contre Biden ou derrière le dos de Biden, c'est-à-dire qu'il, lui, il a conscience qu'il est dans cet état-là, c'est-à-dire le type est pas...
Il cherche pas à rester à tout
non,
prix.
Non, c'est pas un type, il faut pas le présenter comme un type qui essaye de rester à tout prix et qui s'accroche au pouvoir, c'est pas du tout le cas. Il est en train de faire œuvre de salut public pour son parti, sauf que maintenant, ça fonctionne plus, et donc là, ils en sont à se dire, bon, voilà, donc, il faut rappeler aux gens qui nous écoutent qu'il y a une convention dans laquelle se présentent des délégués, que normalement, à la convention, les délégués votent pour le candidat qui a fait la campagne et qui a gagné les primaires, sauf qu'il y a eu, dans l'histoire américaine, depuis le 19e siècle, 3 ou 4 conventions républicaines ou démocrates, où au moment de la convention, il y a eu un choix différent qui a été fait. Donc le scénario que...
Donc c'est possible.
C'est possible techniquement, c'est totalement possible. La réalité, c'est pas le problème de savoir si techniquement c'est possible. Il semblerait qu'Obama bosse dessus, Clinton bosse dessus. La vraie question, c'est qui ?
Ah oui.
Voilà, donc
c'est pas très grave.
Alors les noms.
Pourquoi c'est pas très grave? Non, parce que Trump va gagner de toute façon.
C'est pas très grave parce que non, c'est pas très grave.
Alors les noms évoqués, juste, excusez-moi, les noms évoqués, c'est étonnamment Hillary Clinton, Kamala Harris, c'est le choix le plus évident, le gouverneur de Californie, mais personne ne remporte la mise.
Emmanuel.
Alors, c'est pas très important parce que ça n'est pas parce que vous êtes à la tête de la première puissance du monde que vous êtes l'homme le plus puissant du monde. Et que il y a eu plein de présidents américains qui étaient médiocres et qui n'ont pas eu d'impact sur.
Là, c'est pas médiocre. Il est juste là, on parle
d'incapacité à gouverner.
Mais
attends, on n'est pas à la direction. On est dans les élections.
La question,
c'est que là, ils sont sûrs de perdre.
Donc, c'est pas. Je veux dire, l'Amérique a survécu à des présidents néfastes.
C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de gagner ou perdre des élections. Là, le problème, la panique des États-Unis, c'est pas de se dire ils ne sauront pas gouverner.
Donc, ça relativise, c'est-à-dire que le monde ne s'écroulera pas si on élit quand même Biden.
C'est pas le sujet. Le sujet, c'est
donc après la réalité.
On a fini.